Donc, je vais juste me raccrocher pour passer le relais au docteur Saunier à ce que Jean de Beaupuis évoquait. On s'est dit à un moment donné, on ne peut pas rester dans des visions uniquement d'organisation, même si, vous l'avez bien compris, il faut qu'on les anticipe et qu'on travaille à ces diagnostics territoriaux pour voir l'état des forces en présence des opportunités et des faiblesses sur chacun des territoires qu'on dessert. Et on sait qu'une de nos difficultés, c'est qu'on dessert parfois pour certains de nos établissements plusieurs territoires qui ne sont pas forcément homogènes entre eux. Et la question qui s'est posée très vite quand on a conçu l'organisation de cette journée, c'était d'essayer, d'une part, de ne pas nous poser uniquement en tant que contributeurs à une organisation, cesser en quelque sorte de regarder un tout petit peu passer les trains, j'utilise volontairement cette expression un peu triviale, pour se dire, mais derrière les organisations, derrière les sollicitations, les projets que l'on porte en tant qu'en quelque sorte, et ce n'est pas non plus péjoratif, de pourvoyeur de moyens, quelle est réellement l'offre de soins. Et une offre de soins, ça se définit d'abord par des contenus cliniques, par des pratiques soignantes et médicales, comme Jean de Beaupuis l'a souligné, et donc par des savoirs qu'on met en œuvre. Et on sait qu'on est tout de suite dans la difficulté parce que ce sont des choses qu'on maîtrise peu, y compris par culture professionnelle, et qu'il faut, à mon avis, s'y frotter. C'est là l'ambition, et c'est ce qu'on peut se donner comme ambition dans une association nationale qui a envie de faire bouger quelques lignes, et pas tout seul, évidemment, toute seule. Et donc la question qui ressort in fine, c'est pourquoi, et le reproche nous en est souvent fait, même si on n'en mesure pas vraiment l'intensité, pourquoi cette forme d'imperméabilité à l'introduction de nouveaux savoirs dans nos organisations de soins, parce que je pense que c'est un constat qu'on peut partager, et au-delà de cette imperméabilité, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre connaissance et contextualiser dans chacun de nos établissements ces pratiques, ces savoirs, et comment est-ce que ces savoirs, notamment, on les transforme en pratiques concrètes et opérationnelles au bénéfice des patients et des soins. Ça va être le fil conducteur de ces journées, vous l'avez bien compris, dans le programme, où systématiquement, il va falloir s'enquérir de l'état de ces savoirs. Alors certes, de façon un peu générale, hein, on n'est pas sur un colloque hyper spécialisé, et ce n'est pas notre objectif. Et derrière, les porteurs d'expérience, en quelque sorte, que peuvent-ils nous dire de l'implémentation de ces savoirs à travers leur expérience, et nous, quelles pistes peuvent-ils nous donner, quelles orientations peuvent-ils nous suggérer pour qu'on en fasse quelque chose de concret dans nos établissements, à un moment, effectivement, où on se retrouve à la croisée des chemins et où on voit bien que l'article 13, sans parler des relations à l'article 27, on ne sera pas à même de le mettre en œuvre de façon satisfaisante s'il n'y a pas une action par ailleurs sur les contenus de soins et sur ces savoirs auxquels on sait très bien, notamment pour les plus récents et les plus nouveaux, je ne sais jamais trop comment dire, que relativement peu de nos patients y accèdent, ou tout au moins selon les établissements et au sein même de nos établissements, selon les territoires ou les filières de spécialité, avec beaucoup d'inégalités. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a posé comme principe ce principe d'égalité ou de tendance à rechercher l'égalité dans l'accès aux soins, l'inégalité dans l'accès au savoir crée manifestement des pertes de chance ou des pertes d'opportunités qui ne semblent pas acceptables dans un système de santé moderne et un tant soit peu ambitieux. Alors, on constatera au fur et à mesure des journées, je vais m'arrêter là, qu'on s'est beaucoup focalisé volontairement parce qu'on est en temps limité sur la psychose et notamment sur la schizophrénie, mais que ce n'est pas non plus un motif pour évacuer tout autre champ de savoir et de connaissances. Et c'est pourquoi on a le plaisir donc d'accueillir le docteur Sandrine Saunier, qui est coordonnatrice du Centre ressources régionales de l'autisme en Rhône-Alpes, justement très directement sur ce sujet, de voir comment on passe, je dirais, de l'actualité et de l'état des savoirs à leur transformation en pratique et en organisation, notamment sous la forme de recommandations aux établissements. Donc je vous propose de lui passer la parole tout de suite.
Je vous remercie. Déjà, je remercie le président, Monsieur Mariotti, pour m'avoir invité. Et puis, je pense qu'effectivement, ce que je vais illustrer en parlant de l'autisme fera bien écho à l'introduction qui vient d'être faite par la DGOS, parce que l'autisme illustre parfaitement ce besoin de coordination et interroge vraiment la place de chacun des acteurs. Donc, je vais vous parler d'autisme, mais je vais aussi vous parler de cette question du parcours. Alors, il y aura effectivement la question de l'apport et des savoirs, mais je vais devoir vous remettre un petit peu le nez dans vos modèles d'organisation et vos modes d'organisation, donc vous n'y échapperez pas, parce que c'est vraiment au centre de la problématique de l'autisme. Alors, un petit rappel sur l'autisme, même si vous en avez sûrement une représentation, parce que beaucoup d'images de l'autisme sont véhiculées dans les médias, mais peut-être que la représentation que vous en avez en tant que directeur d'établissement de soins psychiatriques est plus péjorative, parce que vous avez peut-être affaire à des patients qui sont hospitalisés au long cours, qui peuvent présenter des troubles graves du comportement, qui sont peut-être à l'origine d'accidents de travail fréquents parmi vos personnels. Donc, cette représentation péjorative, elle existe dans les médias, mais il y a aussi d'autres façons de voir l'autisme, comme vous pouvez voir là dans des livres qui ont été écrits par des personnes avec autisme, des films qui illustrent leur vie quotidienne, etc. Donc, je vous invite vraiment à regarder ces films. L'autisme se prête particulièrement bien à une vision narrative et cinématographique. C'est pour ça que j'avais préparé une petite vidéo pour vous montrer. Mais comme je ne suis pas bien sûre là, du passage du PowerPoint et puis qu'on a pris un peu de retard, on gardera ça pour la fin si je vais assez vite dans mon propos. C'est un peu pour vous maintenir éveillé. Alors, pour ceux qui ont besoin de faire une petite sieste, voilà ce qu'il faudrait retenir. Après, vous verrez si vous arrivez à maintenir votre attention. L'autisme est maintenant vu comme un trouble neurodéveloppemental. Et je dirais que chaque phrase ici reprend un peu la problématique que nous avons en pédopsie. Déjà, trouble neurodéveloppemental, c'est un énorme écart pour beaucoup, beaucoup de praticiens entre leur vision de l'autisme, qui était pour eux une vision infantile. C'est comme ça qu'ils ont été, éduqués ou formés. Et maintenant, on parle d'un trouble neurodéveloppemental. Et ça, c'est une notion qui reste très, très floue pour beaucoup des confrères en pédopsie. Une grande variabilité de présentation, ce qui va amener à des difficultés diagnostiques. Une évolution diverse selon l'âge et le niveau de développement. Donc là aussi, en termes de prédiction, on reste dans les prémices pour essayer de trouver ces facteurs de prédiction. Un diagnostic de plus en plus fréquent, et ça va avoir un énorme impact sur l'organisation des soins, puisque le mode d'organisation qui a été pensé dans le premier plan autisme correspondait à une certaine prévalence. Et vous verrez, là aussi c'est un teaser, c'est pour vous maintenir en éveil, où on en est de cette prévalence, et l'importance des interventions précoces. Voilà. Alors, rien qu'en termes de dénomination, de la manière de parler de l'autisme, j'ai déjà évoqué la psychose infantile, on n'en parle plus vraiment dans le milieu de l'autisme, mais je sais que ça reste un diagnostic ou une dénomination, une façon de définir le problème de l'autisme qui reste d'actualité pour un certain nombre de confrères. Pourtant, les recommandations nous disent d'utiliser la classification internationale des maladies, et donc on est passé à la CIM-10. Et là, rien que dans votre choix souvent d'avoir fait référence à la CIM pour le PMSI, pour nous, ça a été très porteur. Donc, vous voyez des décisions qui sont, entre guillemets, peut-être vécues comme administratives. Ça a été très important parce que ça nous a permis un petit peu de faire rentrer la question des troubles envahissants du développement dans le diagnostic. Et les confrères ont dû se poser la question de c'est quoi le trouble envahissant du développement par rapport à la psychose. Et parfois, ça passait simplement au moment de la cotation du PMSI. Alors, je ne sais pas si vos pédopsychiatres utilisent bien leur PMSI, mais ils s'en réfèrent. Mais donc, quand on dit que c'est le soin doit étayer l'organisation, parfois c'est l'inverse. C'est des choix administratifs ou politiques qui permettent de faire évoluer les représentations. Alors, vous voyez que quand on parle de troubles envahissants du développement, on fait référence à l'autisme et puis à tout un tas d'autres catégories atypiques, syndrome de Rett, autres troubles désintégratifs de l'enfance, etc. Plein de sous-catégories qui malheureusement ne sont pas bien définies entre elles, pas bien différenciées, ce qui fait que ça a amené finalement pas tant de précision. Donc on est passé à autre chose maintenant, les troubles du spectre de l'autisme. Donc il faut bien voir qu'on a mis à peu près 10 ans à familiariser les confrères à troubles envahissants du développement, mais on passe déjà à troubles du spectre de l'autisme, donc il va falloir les de nouveau former et expliquer. Les troubles du spectre de l'autisme, c'est intéressant comme modèle, je vous expliquerai pourquoi après, et vous allez retrouver finalement vos anciennes catégories, autisme infantile, autisme atypique, syndrome d'Asperger et les fameux autres troubles envahissants du développement. Ce que vous ne retrouverez plus, c'est le syndrome de Rett qui est passé dans les maladies génétiques et les autres troubles désintégratifs de l'enfance. Donc finalement, on recentre les troubles du spectre de l'autisme sur les catégories finalement qui étaient le plus fréquemment utilisées. Je vous parle de catégories et la grande évolution du DSM-5 qui donne un petit peu le là pour les chercheurs et les praticiens dans le milieu de la psychiatrie. ce sont donc c'est les troubles du spectre de l'autisme. Alors donc on revoit en eux aussi, ils ont évolué entre DSM-4 et DSM-5. Et vous voyez que les troubles du spectre de l'autisme ont rejoint les troubles neurodéveloppementaux. Ça aussi, c'est un pas majeur dans l'évolution de la représentation de l'autisme. Donc on passe d'un trouble de l'enfance, d'un trouble psychotique à un trouble neurodéveloppemental. Et surtout, on passe d'une catégorie à la notion de spectre ou de continuum, ce qui se voit dans d'autres pathologies, d'ailleurs en psychiatrie, mais qui a fait un grand pas dans la psychiatrie, avec ces fameux éléments cliniques qu'on va retrouver de manière très variable. Et l'idée du continuum, c'est de montrer que les personnes peuvent avoir une présentation, bien sûr, variable du trouble, et qu'elles peuvent évoluer au sein de ce continuum, selon la sévérité de leurs symptômes, selon la part des troubles de la communication par rapport aux troubles des interactions sociales, etc. Alors, je reprends rapidement, parce que je ne vais pas vous embêter trop avec les classifications, mais je reprends les éléments qui permettent, pour nous cliniciens, de définir ce trouble. Un déficit de la communication avisée sociale et des interactions sociales. Donc, ce n'est pas seulement la communication qui va être gênée dans l'autisme. Beaucoup d'enfants avec autisme arrivent très bien à communiquer pour faire comprendre leurs besoins. Et ça, d'ailleurs, ils sont plutôt habiles. On a intérêt à bien se plier à ce qu'ils souhaitent. Mais c'est vraiment la communication qui vise à favoriser les interactions sociales, que ce soit dans le fait qu'eux vont initier cette interaction et ce besoin de communication, ou dans la compréhension de ce que nous, on souhaiterait partager avec eux. Donc, ça peut être un déficit. Ça va s'exprimer par une difficulté à comprendre et à maintenir les relations, bien sûr, tout en étant adapté au niveau de développement. Un déficit dans les comportements de communication non verbale. Là, vous voyez, je suis un peu gênée parce que je ne suis pas debout, je tiens le micro. Et en fait, j'aurais bien besoin de faire des gestes. J'essaye de capter votre regard. Et en fait, j'ai un comportement de communication non verbale qui permet vraiment de faciliter l'interaction avec vous, même si vous êtes nombreux et que je ne peux pas m'adresser de manière personnelle à chacun d'entre vous. Mais ça aide beaucoup. Et ces comportements de communication non verbale vont être moins employés ou pas de manière adaptée par les personnes avec autisme. Et puis, un déficit dans la réciprocité socio-émotionnelle. C'est très compliqué d'être en relation quand on ne fait pas un feedback au niveau de nos émotions. On voit des gens qui sont un peu froids, un peu rigides, pas très accessibles. C'est compliqué de savoir où on en est. Simplement, quand on veut avoir un échange conversationnel, est-ce que la personne suit bien, est-ce que ça lui plaît, etc. Les personnes avec autisme vont avoir du mal à lire vos émotions et même à partager les leurs. Et puis, il va y avoir les comportements et intérêts restreints ou répétitifs. C'est souvent un peu les aspects qu'on voit le plus dans l'autisme. C'est ce qui frappe, les petits-enfants qui font du flapping comme ça, qui tournent en rond. Et ce n'est pas forcément les aspects les plus fréquents et les plus gênants pour les personnes avec autisme. Mais c'est vrai qu'ils sont fréquemment décrits. Donc, on va avoir les fameux gestes stéréotypés, le fait d'utiliser des objets de manière répétitive, d'avoir un discours parfois très répétitif. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a pas que les autistes, on connaît pas mal d'autres personnes qui ont tendance à être très répétitives dans leur façon de parler. Mais là, ce qui va être gênant, ça va être que ce n'est pas forcément en lien avec la relation, même si ça peut être en lien avec des besoins et adapté au contexte. Des intérêts très restreints, figés. Ça peut être, alors c'est très très variable. Alors on retrouve des grands classiques, des intérêts pour les choses qui tournent, pour les alignements, pour les systèmes un petit peu complexes, les motifs. Ça peut être des intérêts très visuels. Le problème, c'est que ça devient envahissant et que ça peut gêner et ça fait concurrence un peu à la fois à l'intérêt pour les relations sociales et aussi aux apprentissages. Une adhésion excessive à des routines, des rituels, avec une résistance excessive au changement. Et ça impacte beaucoup, beaucoup la vie quotidienne des personnes quand ils sont obligés de prendre toujours le même chemin, de toujours répéter la même séquence, quand ils ne peuvent pas introduire de changement ou d'imprévu dans leur vie. Donc ça pèse beaucoup sur la vie quotidienne des familles. Et puis le petit nouveau, c'est les intérêts sensoriels. Je dis le petit nouveau parce que ce n'était pas un critère qui était retenu dans les classifications précédentes. Et le fait qu'on accorde de l'importance aux réactions sensorielles est vraiment intéressante parce qu'on a vu que les problèmes de sensorialité dans l'autisme sont un pourvoyeur de difficultés de comportement. Une hypersensibilité au bruit, une tendance à rechercher des sensations kinétiques, le fait d'être attiré par les lumières ou de ne pas supporter la lumière ou le cumul de toutes ces sensations. C'est aussi pourvoyeur de troubles d'alimentation. Et vous voyez que dans vos hôpitaux de jour, c'est une problématique qui revient souvent. Un enfant qui a du mal à se nourrir de manière variée, etc. Alors, ça peut être, l'origine peut venir de ce problème de stimulation sensorielle ou de réactions inhabituelles. Il peut y avoir aussi une insensibilité à la douleur, et ça, c'est très gênant pour dépister un problème de santé somatique. Et ça peut vraiment conduire à des drames, je dirais, en termes de santé. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a souvent le reproche qui est fait au DSM, c'est de dire on va tout mettre dans le même sac, tout sera TSA, et on est dans le flou. En réalité, maintenant qu'on ne va plus vers une approche par catégorie, on va devoir préciser les dimensions pour décrire les difficultés de la personne. Donc on est passé de catégorie à un aspect dimensionnel, et dans les TSA, on va trouver des TSA, alors ça je reprendrai ça après, des TSA qui auront ou non une déficience intellectuelle, donc il va falloir aller la chercher, des TSA qui auront une altération du langage, donc il va falloir le préciser et l'évaluer, le fait d'avoir une condition médicale ou génétique connue, le fait d'être associé à un autre trouble développemental. Donc derrière cette espèce de grande catégorie, on va finalement préciser les difficultés de la personne. Juste pour rappeler, l'autisme commence depuis tout petit. Et avant, il y avait une espèce d'âge qui était début avant l'âge de 3 ans. Maintenant, c'est un début précoce. Parce qu'on sait qu'il y a des formes d'autisme qui existent dès la petite enfance, mais qui n'apparaîtront que plus tard. Parce que les personnes arrivent plus ou moins à compenser leurs difficultés sociales. Et il nous arrive maintenant de dépister des adultes de 40, 50 ans qui ont pu avoir quand même un parcours plus ou moins intégré dans leur vie sociale, dont des confrères. Voilà. Donc, comme quoi, voilà. C'est aussi, on sort un peu de la vision péjorative de l'autisme quand on rencontre un confrère autiste qui se débrouille pas trop mal, qui est marié avec des enfants. Bon, son épouse se plaint beaucoup quand même. Même si elle est follement amoureuse, heureusement, parce qu'elle est obligée de beaucoup compenser pour lui. Alors, les symptômes entraînent un déficit important du point de vue clinique, social ou professionnel. Alors, c'est là où les questions diagnostiques. Hein. À partir du moment où on travaille, on est marié, on a des enfants, est-ce qu'on relève encore de ce diagnostic? Ça, c'est toute une question hein, sur la question de... On peut avoir un diagnostic sans avoir le handicap, si c'est bien compensé, etc. Donc, à voir. Et bien sûr, les troubles de l'autisme ne sont pas mieux expliqués par un handicap intellectuel ou un retard de développement. Et là, on va avoir des gros problèmes de diagnostic différentiel. Je vais un peu vite parce que j'avais tellement de choses que j'avais envie de vous raconter que il y a des choix que je ne pouvais pas faire. Alors je me suis dit, je vais tout vous mettre dans la tête, puis on triera après. Ce n'est pas une très bonne façon de communiquer. Mais... Un autre point important de ce DSM-5, c'est le niveau de sévérité. Finalement, on peut très bien avoir un syndrome d'Asperger, donc un autisme sans retard de langage et sans déficience intellectuelle, où on se dit, ben, là, c'est moins grave, et pourtant avoir besoin d'aide et de manière plus importante parfois qu'un enfant avec autisme typique. On a des enfants avec autisme typique qui sont, je dirais, bien dans leur peau, qui vont à l'école, qui arrivent à accéder aux loisirs. Alors, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne sont peut-être pas si à l'aise sur le plan intellectuel, mais la vie roule, je dirais, qu'ils ont une vie comme tous les autres enfants. Et on peut avoir des personnes avec Asperger cloîtrées chez elles, complètement anxieuses, impossible de se nourrir, supportant pas la moindre stimulation, ne pouvant pas prendre les transports en commun et sans autonomie. Et vous voyez que le besoin d'aide n'est pas forcément lié à la sévérité des symptômes. Le besoin d'aide est lié à la vie et au parcours de la personne. Et c'est plus complexe que simplement une évaluation clinique. Donc là, ils ont introduit le niveau de sévérité. Avec le niveau de sévérité, il est bien sûr en lien avec la clinique, mais aussi aux besoins de la personne. Je rappelle quand même, si j'ai pas mal parlé, on parle beaucoup de l'Asperger parce que ça permet d'ouvrir des portes, mais l'autisme, c'est finalement souvent associé au retard mental, mais pas si souvent que ça. Hein. On était vraiment dans la vision l'autisme, un handicap, une déficience associée. Si on prend l'ensemble des troubles envahissants du développement, ou maintenant on dira l'ensemble des TSA, hein, des troubles du spectre de l'autisme, on retrouve 30% de retard mental. Et bien sûr, c'est plus fréquent dans les formes les plus typiques, mais sur les formes qu'on appellerait autres TED, hein, les formes moins prononcées d'autisme, avec une bonne rééducation et surtout une bonne évaluation du niveau cognitif, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de retard mental. Alors, pour nous, pas de retard mental, il suffit qu'il y ait une note à un subtest qui atteint la moyenne, ça nous va. Hein, on peut avoir un retard psychomoteur, un retard de langage, et puis il suffit qu'il soit très fort d'un un ou deux subtests, on dira, voilà, il y a des compétences cognitives, elles sont préservées, on ne mettra pas le diagnostic de déficience intellectuelle associée. Alors, malheureusement, les personnes avec autisme, encore, ont beaucoup de... n'ont pas qu'un problème d'autisme, elles ont souvent des comorbidités psychiatriques. Et là, ça vous concerne vraiment, parce qu'on a un problème de diagnostic différentiel avec ces troubles psychiatriques. Est-ce que c'est une entrée dans la psychose? Est-ce que c'est un trouble bipolaire? Est-ce que cette personne a des TOC très invalidants? Et tous ces troubles psychiatriques peuvent parfaitement masquer l'autisme. Et dans le même temps, une personne avec autisme qui va en plus avoir ce type de pathologie psychiatrique associée va avoir un avenir beaucoup plus péjoratif et ça va être beaucoup plus compliqué à soigner. Donc on a le problème de diagnostic différentiel, de repérer, de différencier et ensuite de traiter. Alors là, c'est juste si vous êtes passionné de cinéma, il y a Bud Clayman, c'est un réalisateur qui, après 20 ans, je dirais, de lutte pour sortir de la maladie, a fait un documentaire sur sa propre condition, puisque lui cumule syndrome d'Asperger, trouble obsessionnel compulsif, dépression, dans le cadre d'une maladie bipolaire. Donc, c'est pas simple. Et il décrit son parcours avec pas mal d'humour et de recul. Alors, c'est sous-titré français, on trouve ça au CRA Rhône-Alpes. Et puis, ils vont aussi beaucoup avoir de problèmes somatiques, pas bien dépistés, pas bien traités. Là aussi, c'est comme pour tous les publics qui ont affaire à la santé mentale ou défauts de santé mentale, il y a le problème d'accès aux soins somatiques. Et on retrouve plus d'épilepsie, des troubles du sommeil de manière importante, des troubles bucco-dentaires, des troubles gastro-intestinaux et bien sûr, tous les problèmes de difficultés d'interprétation et d'expression de la douleur. Donc, notre travail, c'est vraiment tout petit de leur apprendre à montrer les parties de leur corps, à dire « j'ai mal », à dire « aide-moi ». C'est des choses très, très simples, mais qui, ensuite, vont bien leur faciliter la vie. Alors, je reviens aux troubles neurodéveloppementaux. Je vous ai dit que les enfants avec autisme appartiennent maintenant, les TSA, sont regroupés dans les troubles neurodéveloppementaux. Il se trouve aussi que ça peut être un diagnostic différentiel. Est-ce que cet enfant qui ne parle pas, qui est très en retrait, est-ce un enfant qui a une dysphasie, un retard de langage sévère et ça le gêne dans son approche de la relation, ou est-ce que c'est un enfant avec autisme? Mais on a aussi le problème que les enfants avec autisme ont un retard de langage associé. Donc on est à la fois toujours dans cette problématique, comme tout à l'heure avec les troubles psychiatriques, troubles associés ou simplement diagnostic différentiel. Le trouble, le TADA, le fameux trouble hyperactivité, trouble de l'attention, plus de 40 à, enfin ça dépend des études, mais 40 à 80% des études montrent que les enfants avec autisme vont avoir un trouble attentionnel associé et qu'ils réagissent moins bien aux traitements habituels. Donc là aussi, on va avoir des difficultés. Est-ce que l'enfant ne prête pas attention parce que ça ne le motive pas? Est-ce qu'il a un trouble attentionnel? À quoi est lié ce trouble attentionnel? Est-ce qu'il faut le prendre en charge et de quelle manière? Et puis, des troubles moteurs. Hein. On disait souvent, les enfants autistes, c'est un trouble de la relation, c'est un trouble du langage, donc ça touche des fonctions cognitives assez élaborées. En fait, les premiers signes qui apparaissent chez les enfants autistes, en tout cas ceux qu'on repère bien, ça reste des troubles moteurs, des troubles de l'ajustement postural, et ça depuis tout petit. Et beaucoup d'entre eux vont garder des difficultés motrices qui se rapprochent de la dyspraxie et qui vont gêner finalement la mise en relation, parce que finalement, le corps en action, c'est aussi un corps qui va être porteur des interactions sociales. Voilà, et troubles spécifiques des apprentissages. Alors, bien sûr, c'est un diagnostic différentiel. Hein. On ne parlera pas de troubles spécifiques des apprentissages dans le cadre de l'autisme, mais pourtant, beaucoup d'enfants vont avoir une dyslexie, des difficultés à apprendre la lecture, et parfois une dyscalculie, etc. Et puis d'autres ont une précocité. Alors, ça, c'est une notion importante que j'introduis un petit peu maintenant dans le propos, parce que ça va un peu guider tout le reste de la présentation. C'est l'idée que notre cerveau humain va avoir des périodes de sa vie où il apprendra plus facilement certaines choses. Alors, on le sait bien, hein, sur les études sur la sensorialité, on va développer notre vue, notre vision, si on est exposé à des stimulations visuelles. Hein, si on reste dans le noir tout petit, à un moment donné, on ne pourra plus voir. Et ce serait pareil pour le langage. Il y a une période où on apprend plus facilement le langage. Et pour les interactions sociales aussi, il y a une période qui favorise l'apprentissage des interactions sociales. Ou en tout cas, c'est pas vraiment un apprentissage, mais le développement des compétences sociales. Alors pour le langage et je dirais tout ce qui est pensée plus complexe, et relations sociales, la fenêtre ne se ferme jamais. Hein. Autant pour les sens, à un moment donné, on n'arrivera plus à développer certains sens. Autant pour d'autres fonctions, ça ne se ferme pas. Mais il y a quand même des périodes qui favorisent ces apprentissages. Alors c'est important pour l'autisme parce qu'on pense que, comme c'est un trouble très précoce, il faudrait agir précocement pour profiter de ces périodes où il y aurait une plus grande plasticité cérébrale pour apprendre, pour être plus à l'aise dans les relations, pour développer le langage ou une autre forme de communication. Donc on est vraiment sur un cerveau qui est bien armé au départ. Hein. Les bébés sont plutôt des êtres sociaux assez rapidement. Mais ils vont devoir soumis à des expériences sociales, à des interactions sociales. Et il faut voir que le bébé, il est acteur de cette interaction. Ce n'est pas un bébé passif, ce n'est pas un sac. Il vient vous chercher, il vous séduit. D'abord, ça sent bon et c'est mignon, donc c'est quand même bien plus pratique. Et en plus, il va, par le feedback très positif qu'il va vous rendre, vous inciter à continuer. Donc un bébé qui vous sourit, vous allez recommencer une action. Un bébé qui fait des jolies lalations parce que vous le chatouillez, vous allez recommencer. Et en fait, sans le savoir, le bébé vous entraîne, vous capte et vous entraîne dans un partenariat et une dyade sociale. Et ça, il en a besoin pour se développer et pour développer ses petites synapses. Voilà, parce qu'on est quand même dans l'idée d'un cerveau avec des connexions. L'autisme est vraiment basé sur l'idée d'un problème de connectivité plutôt qu'un module qui ne marcherait pas. C'est les théories actuelles. Donc, on voudrait profiter de ces fenêtres de manière précoce pour, quand il est encore temps d'agir, agir. Alors, il est tout le temps temps d'agir. Hein. On voit que les fenêtres ne se ferment jamais, les fenêtres d'apprentissage. Alors, ça, c'est important d'avoir ce modèle en tête parce qu'on voudrait agir tôt pour beaucoup d'enfants. Mais combien sont-ils ? Vous voyez que dans les années 90, dans les années 2000, hein, quand sont sorties les premières recommandations ou l'organisation un petit peu les plans autisme, on était sur des chiffres de prévalence assez bas. Hein, quand moi j'ai été formée, c'était 1 sur 4000. Enfin, on était vraiment sur des prévalences maladies rares. Donc il y avait un peu le modèle maladies rares en tête. Mais en fait, maintenant, on est à 1 sur 150 d'après les chiffres de l'HAS en 2009, hein, qui sont basés sur... je dirais, des études une revue des études épidémio faites dans les années 2000. Et la tendance est vers le 1%. Pour ne pas dire pire sur certaines études, hein, on est à 2%. Mais la tendance va vers le 1%. Donc, vous voyez, en 15 ans, on part d'une planification des besoins sur une maladie pas loin des maladies rares. Et là, on arrive à un trouble très fréquent qui est de l'ordre qu'on retrouve des chiffres de la schizophrénie. Hein. Non, 1%, la schizophrénie, on est toujours sur le 1%. Voilà, donc... il va falloir tenir compte de ça quand on a en tête, mais on veut s'en occuper bien et très précocement. Alors, ces personnes avec autisme ne se contentent pas d'être autistes tout petits, ils grandissent, ils vieillissent, ils évoluent, et ça c'est très bien pour eux qu'ils puissent évoluer. Et là, vous voyez ce vieux monsieur qui s'appelle Donald Gray Triplett, qui vit dans la petite ville de Forest, dans le Mississippi, a maintenant 82 ans, et c'est un charmant retraité de la banque. Il a travaillé comme banquier. Et il est important parce que c'est le premier enfant diagnostiqué par Kanner, dans sa publication. C'est case number one, on appelle ça le cas numéro un. Et il l'avait diagnostiqué quand il était tout petit, vers 5 ans, et c'était un enfant autiste typique. Et après un parcours dans les hôpitaux de jour de l'époque, après avoir failli être débauché par un homme de foire parce qu'il était savant calculateur et il aurait bien aimé lui faire faire le tour de l'Amérique pour le faire calculer devant un public varié, finalement les parents ont décidé de s'en occuper en se disant « Notre enfant, il faut qu'on s'en occupe ». Ils l'ont ramené à la maison. Comme ils étaient les notables du coin, ils étaient maires, ils avaient la banque, enfin ils avaient à peu près toute la ville, ils ont imposé leur enfant à l'école et il a pu apprendre alors qu'il était très autiste. Et devenir finalement caissier à la banque locale. Bon, ils étaient propriétaires de la banque, ça aide. Et maintenant, il est complètement inséré dans la petite ville de Forest. Alors, il a un talent particulier pour rentrer en relation avec les gens. Il leur attribue un numéro. Et chaque habitant de Forest est très content d'avoir son propre numéro attribué par Donald. Et puis, il conduit. Bon, il ne passe jamais plus loin que la première. Mais maintenant, il y a des automatiques, donc ce n'est pas gênant. Il joue au golf de manière improbable, mais il joue au golf et il lit son journal, il boit son café avec les retraités du coin. Donc, il y a une possibilité d'évolution intéressante, mais vous voyez, dans des conditions extrêmement favorables, c'est-à-dire quand toute une communauté lui laisse sa place, des parents extrêmement stimulants, et lui-même avait aussi des compétences cognitives qui lui ont permis de trouver sa place comme caissier. Mais c'est une belle petite histoire, et d'ailleurs, elle a été reprise par The Atlantic. Il y a des reportages sur lui à la télé, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Alors, donc, ces enfants sont devenus des adultes avec un diagnostic qui est souvent stable, même si on a quand même des cas de personnes qui, suite à des bonnes prises en charge ou par leur capacité d'évolution, ne remplissent plus les critères de l'autisme, mais c'est assez, assez rare, avec une grande hétérogénéité clinique et des évolutions variables. Alors, ce qui s'améliore quand même, en général, c'est la communication et le langage. Beaucoup, beaucoup d'enfants vont parler, beaucoup de personnes avec autisme vont trouver des moyens de communication. Les relations sociales restent très compliquées, même si souvent l'expression émotionnelle s'améliore. Et puis, les stéréotypies diminuent. Souvent, ils élargissent leur centre d'intérêt. Alors, des fois, il y a une disparition des centres d'intérêt parce qu'ils dépriment, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Et malheureusement, certaines personnes vont s'aggraver, souvent à l'adolescence, et certains noms vont développer des troubles graves du comportement. Et souvent, ils ont recours à vos soins. Alors, les recommandations de bonne pratique sont sorties pour les enfants avec autisme en 2012. Il y avait eu auparavant les recommandations, je vais vous mettre ça, voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Tout se trouve, tout est gratuit, alors ça c'est vraiment pratique sur Internet aussi. Vous pouvez trouver ça dans vos centres de ressources autisme, mais ce n'est pas toujours d'une lecture très agréable. Donc je vous ai fait une petite compile et un résumé très très bref, parce que 300 pages de recommandations, ce n'est pas toujours simple. Mais ça concerne autant le diagnostic que la prise en charge. Il va y avoir des recommandations pour la prise en charge des adultes, mais ça concerne la qualité de vie, la scolarisation. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant de guidelines qui permettent quand même de voir à peu près vers quoi on tend. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement en termes de propositions de prise en charge, c'est ce vers quoi on tend. Alors, le diagnostic, il reste clinique. Malheureusement, on n'a pas encore de diagnostic biologique ou d'imagerie. Qui dit clinique dit personnel, ça c'est pour vous, et personnel pluridisciplinaire, compétent et formé. Et voilà, le jour où on aura une prise de sang, ce sera plus simple et sans doute moins coûteux. Mais là, en attendant, ça reste des personnes qui se mettent autour d'une table et on discute de tout ce qu'on a, toutes nos observations. Et ça, vous savez bien que les réunions de synthèse, ça ne code pas au PMSI. Donc voilà, heureusement que vous êtes en dotation globale tous. Ouais, ouais. Heureusement parce que... voilà, il n'y a rien de mieux pour j'irais plomber une activité qu'une réunion de diagnostic d'autisme qui réunit 8 personnes pendant 1h30 et qu'on ne peut absolument pas valoriser. Alors, ça va associer les observations des parents et le jugement de cliniciens expérimentés. On doit faire référence à la CIM-10, donc maintenant c'est bien dit, c'est fini la psychose, les dysharmonies et autres diagnostics de la classification française. Il faut faire référence au diagnostic international. Et puis, on va, bien sûr, rechercher des troubles et des maladies associées. Alors, l'évaluation, elle est longue parce qu'il y a aussi tous les aspects somatiques. Et souvent, ça s'est fait par des services de neuropédiatrie ou de pédiatrie ou de génétique. Il faut aussi... Vous avez vu que c'est un trouble vie entière. Donc, on va rechercher des antécédents, le début des troubles, essayer de comprendre l'environnement familial et, bien sûr, proposer une évaluation des compétences de la personne. Je vous avais dit, langage, où il en est de son langage, où il en est de ses compétences cognitives. Et ça, c'est une évaluation. C'est pas, voilà, le diagnostic ne peut pas se résumer à une simple classification. On essaye de comprendre comment fonctionne la personne, dans quel environnement. Ça, c'est assez fréquent en psychiatrie, mais maintenant, c'est formalisé, cette démarche. Bon, là, bien sûr, on va essayer de retrouver au niveau des symptômes les difficultés d'interaction, de communication, les intérêts de la personne et son profil comportemental. On peut citer d'outils. Alors, les bilans psychologiques, c'est souvent les tests de QI classiques, si on peut les faire passer. Sinon, on a d'autres bilans psychologiques de tests développementaux qui nous aident. Bilan psychomoteur, sensorimoteur, examen de la communication et du langage. Et puis, on a des outils diagnostiques. Alors, ces échelles ADI-ADOS, c'est très cher. La formation, c'est 1 000 euros par personne, plus de 1 000 euros pour former une personne. Et ensuite, les temps de passation sont aussi très chers. Donc, c'est un investissement à la fois pour un hôpital ou pour un centre de ressources de proposer ce type de formation. C'est souvent des échelles qui sont donc réservées à des équipes qui doivent faire de manière fréquente des diagnostics. Bon, ça, c'est les examens somatiques. Donc, vous avez intérêt à avoir un partenaire qui puisse répondre à ces besoins-là. Souvent, les enfants sont passés en neuropédiatrie avant d'arriver en psychiatrie. C'est quand même le premier signe d'alerte, c'est le retard de développement ou un retard de langage. Et donc, beaucoup d'enfants ont déjà eu ce type d'examen. Mais c'est important de vérifier. On voit encore des enfants qui n'ont jamais vu de neuropédiatre alors qu'ils sont autistes typiques. On fait un EEG. L'IRM n'est pas systématique. Et puis, bien sûr, maintenant, il y a des études en génétique qui sont plus poussées que le caryotype et l'X fragile. Ça date un peu, cette diapo. Alors, les modes d'intervention, ça, c'est ce qui va vous concerner plus directement. Dans les modes d'intervention, j'ai mis l'inclusion scolaire et professionnelle parce que ça reste une grosse partie du travail pour les personnes avec autisme va se faire dans ce cadre-là. En tout cas, c'est ce qui est souhaité et c'est ce vers quoi on tend. Des interventions peuvent être focalisées ou spécifiques. Ça va être un groupe d'habileté sociale, une rééducation psychomotrice, de l'ergothérapie, etc., selon ce que vous avez découvert comme difficulté chez la personne ou mis à jour. Ou alors, vous avez aussi maintenant des modèles ou des approches ou interventions globales qui vont essayer de répondre à l'ensemble des difficultés de la personne dans sa vie quotidienne. Donc, à la fois les difficultés sociales et de communication, mais aussi ses difficultés motrices, etc. L'inclusion scolaire, j'en parle quand même parce que c'est un point important et qui a pas mal bousculé la pédopsie. Avant, les enfants avec autisme étaient plutôt dans des groupes de CATTP ou à l'hôpital de jour. Et ils étaient à l'école quand, en gros, ils étaient prêts pour être à l'école. Et maintenant, le modèle est inversé. On n'attend pas qu'ils soient prêts. On sait qu'ils ne vont pas être prêts tout de suite, de toute façon. Donc, ils vont d'abord à l'école. L'école va les accueillir, va les aider à se préparer à cette vie sociale. Et le service ou les différents services, que ce soit sanitaires ou médico-sociaux, doivent venir en support pour permettre cette inclusion. C'est vraiment un renversement de perspective. Et maintenant, les scolarisations en milieu ordinaire, elle est possible dans différents cadres, en classe ordinaire, bien sûr, avec ou sans AVS, ces fameuses aides, ces AVS. Alors, il faut voir que pour avoir droit à ces aides, il faut quand même passer à un moment donné par une évaluation des difficultés de la personne et souvent avoir un diagnostic et un certificat médical. Donc, voilà, c'est la boucle. Et on revient finalement vers l'hôpital aussi pour ça. Il y a maintenant les unités d'enseignement maternel. C'est un des dispositifs, je ne sais pas si vous les connaissez. Non, pas spécialement. C'est vraiment des dispositifs importants puisque c'est proposer une scolarité pour des enfants de 3 à 6 ans qui ont des formes d'autisme sévères avec des troubles du comportement associés, des formes d'autisme qui ne permettent pas la scolarisation en milieu ordinaire. Et on leur proposera une classe où ils vont trouver au sein de la classe un service médico-social qui va intervenir dans la classe. Donc ils vont avoir une psycho, une ortho, une ergo ou une psychomote, des éducatrices, et au sein d'une classe qui est pilotée par une enseignante. Donc le projet, il est bien pédagogique, c'est de faire en sorte que l'élève devienne un élève, en gros, et le projet médico-social est simplement là en appui pour l'aider dans son développement, l'aider dans ses difficultés autistiques, pour devenir cet élève-là. Donc une intégration complète du médico-social dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, il n'y a qu'une unité d'enseignement par département, donc c'est que 7 enfants. C'est très onéreux, mais je pense que ça a une valeur un peu à la fois concrète pour les enfants qui y sont, mais aussi symbolique sur le fait qu'on peut finalement scolariser des enfants autistes, même s'ils ont des troubles sévères. Et puis ça habitue aussi les autres enfants à voir des enfants avec handicap tout petits, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'avenir. Alors, il y a les dispositifs ULIS qui existent aussi, qui sont des classes spécialisées avec un enseignant spécialisé et un petit effectif. Et puis, tous ces dispositifs scolaires vont s'appuyer sur des services à l'extérieur pour pouvoir aider les enfants à apprendre. Voilà, il y a encore une scolarisation très majoritaire en milieu spécialisé. On a lancé une petite enquête parents sur Internet. Et dans ceux qui nous ont répondu, là, pour le moment, on est à 300 réponses. 90% des enfants étaient scolarisés en milieu spécialisé, que 10% étaient en milieu ordinaire. Donc on est quand même loin, loin de la scolarisation en milieu ordinaire, même s'il y a des progrès très nets depuis la loi de 2005. Ça, c'est vraiment la diapo aussi qu'il faut retenir sur les recommandations et les types d'interventions. Je pense que j'ai droit à un quart d'heure de plus, non ? Parce que, en termes timing. Non, j'ai commencé à quelle heure ? 10 minutes, ok. Voilà, alors je vais surtout insister là-dessus. Le point important, c'est associer l'enfant, l'adolescent et ses parents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui semble évident. Bah oui, bien sûr, on demande, vous allez demander un service à un médecin, il vous associe, il vous explique votre traitement, etc. C'est encore loin d'être le cas en pédopsie, où les parents n'ont pas forcément une visibilité de ce qui est proposé, n'ont pas forcément le choix ou leur mot à dire sur la prise en charge. Évaluer régulièrement le développement de l'enfant et son état de santé, ça veut dire que les psychos font des bilans psycho, que les psychomotes font des bilans, et que tous ces bilans sont rendus de manière intelligible aux parents, avec des écrits, et avec des synthèses qui sont écrites. Et ça, c'est encore très très loin des pratiques, juste de rendre des écrits. Il y a encore l'idée que le parent doit demander son dossier, mais l'idée qu'on lui donne vraiment un bilan écrit et qu'on lui explique ce qu'il y a dedans, c'est pas tout à fait encore dans les pratiques. Je sais pas si c'est le cas pour vos familles, mais les familles sont encore beaucoup besoin de demander, en gros, la saisie du dossier, enfin, d'avoir une espèce de démarche administrative, alors que c'est de l'information qu'ils sont censés avoir de manière naturelle. Proposer un projet personnalisé d'intervention précoce, globale, coordonnée. Donc précoce, c'est-à-dire le plus tôt possible, dès qu'on a identifié des problèmes. Globale, qui touche toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Hein, on les a vues, troubles attentionnels, et pas seulement le développement de sa psyché. Et coordonnée, parce qu'il faut quand même avoir... Il y a beaucoup d'acteurs qui vont intervenir, et on va avoir besoin d'une coordination pour que les gens avancent dans le même sens. On a encore souvent des orthophonistes qui mettent en place une aide, une communication par l'image. Et quand l'enfant arrive en soin, on dit ben, il n'en a plus besoin et chez nous, il n'en a pas besoin. Et en fait, si, il a besoin de ces supports de communication, il a besoin que les adultes les utilisent pour pouvoir généraliser ces aides-là. Donc, si ce n'est pas coordonné, si en famille ou auprès des lieux de vie de l'enfant, il n'utilise pas les aides qu'il développe dans des endroits de rééducation, ça ne sert pas à grand-chose. Encadrer les prescriptions médicamenteuses, bon là c'est vraiment là on frôle la catastrophe. Coordonner, former les différents acteurs, bah, c'est beaucoup un rôle de pas mal d'institutions, mais les CRA, on essaye beaucoup de travailler à cette question. Et développer des travaux de recherche, là aussi ça concerne vraiment toute la communauté. Et ce qu'on fait pas mal en Rhône-Alpes, c'est vraiment d'intégrer toutes les équipes, et pas seulement les équipes de CHU, à nos projets de recherche, parce que c'est quand même la garantie pour les patients d'avoir déjà des évaluations faites correctement, et ça permet quand même d'augmenter le niveau de compétence des professionnels. Donc, les travaux de recherche clinique concernent vraiment tous les personnels. Mais ça, je crois que vous allez le voir beaucoup dans les prochaines journées. Alors, il faut quand même savoir qu'aucune approche éducative ou thérapeutique ne peut restaurer l'ensemble du fonctionnement de la totalité des personnes avec autisme. Il y a des approches qui vont aider plus certaines personnes et d'autres moins. Il y a des considérations éthiques de sur- et sous-stimulation. Bon, là, actuellement, on n'est pas en surstimulation en France, on en est très loin. Et puis, bien sûr, les objectifs des interventions, c'est de toujours dans le respect de la personne, hein, et de favoriser son développement, sa participation sociale, etc. Les actions sont souvent directes et indirectes, c'est-à-dire qu'on va agir directement auprès de l'enfant en lui proposant des différents types de rééducation, mais aussi sur l'aménagement de son environnement pour faire baisser le niveau de stress. Je vous montrerai quelques images. Et aussi auprès de ses parents et des autres intervenants pour les former à la pensée autistique et qu'ils soient mieux à même de comprendre l'enfant. Alors, les interventions évaluées, elles améliorent environ 50% des enfants avec une amélioration du QI, voire normalisation, une amélioration de la communication, du langage et une diminution des comportements problèmes. Donc, ça vaut quand même le coup de les mettre en place, ces interventions qui ont été évaluées. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été évaluées. Et en termes d'évaluation, elles sont souvent de grade B. Vous verrez un peu ce que c'est que ces grades A, B, C. Je pense que ça vous sera expliqué. C'est un niveau de preuve qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas parfait non plus. Avant de mettre en place une évaluation, là, c'est vraiment aussi très important. Il faut, enfin, une intervention, il faut que ce soit basé sur l'évaluation de la personne et toujours en co-élaboration avec la personne elle-même, si c'est possible, et ou ses parents. Ça aussi, ça, c'est vraiment un changement de pratique. Hein. Avant, les gens venaient, on leur proposait ben, tel soin, tel groupe, et ils pouvaient venir, ils ne pouvaient pas venir, mais ils n'avaient pas forcément leur mot à dire. Actuellement, les parents disent ben non, moi, je préférerais ça, j'ai besoin de ça. Moi, ma priorité, c'est plutôt qu'ils puissent manger et qu'ils soient propres. Je n'ai pas forcément besoin actuellement d'un groupe parent ou avec un certain type d'écoute. Et les parents commencent un peu plus à manifester leurs besoins. Alors, il me reste que 3 minutes peut-être, donc je vais aller directement à la diapo de la fin, parce que je vous détaillerai pas toutes les... Juste vois un exemple peut-être de structuration du temps. Ça, c'est ce qui aide particulièrement bien les enfants avec autisme. C'est des choses très simples qu'on utilise souvent en maternelle, mais on va, par exemple, proposer une structuration du temps pour faire baisser le niveau de stress et l'angoisse au changement. La prévisibilité reste un point important pour eux. Vous voyez, ça, c'est le genre de petit schéma aussi qu'on met en place. Là, c'est la motivation. Un enfant, ils adorent souvent les petits bouts de papier, les déchirer, les mettre comme ça, les agiter devant leurs yeux. On part de leurs intérêts restreints et on essaye de transformer ça en quelque chose qui sera une activité qui va permettre de produire, qui aura du sens et qui aura plus une fonction sociale ou d'apprentissage. Et puis, il faut toujours respecter le rythme. Les personnes avec autisme sont très fatigables. Donc, on alterne toujours des moments de travail avec des moments de repos et surtout des choses plaisantes qui gardent leur attention en éveil. Alors, les enjeux. Les enjeux, c'est le diagnostic précoce, qui est possible dès 18 mois. On peut maintenant faire le diagnostic dès 18 mois. Alors, on ne parlera pas forcément d'autisme à ce moment-là, mais on va alerter la personne sur le fait que l'enfant présente des comportements à risque et qui peuvent conduire à un autisme pour qu'il puisse ensuite être stimulé par des interventions précoces, type modèle Denver. Hop, je passe rapidement ça. Je voudrais aller Ah oui, je voudrais parler de l'écart des préoccupations. Quand nous, on va voir les soignants, ils nous parlent beaucoup du sens du soin, la place du sujet. Ils ont très peur que ces méthodes d'intervention qui sont très focalisées sur des comportements ou des compétences enlèvent la place du sujet, que la personne ne soit pas respectée. En réalité, le fait qu'on intervienne sur la communication ne gêne pas du tout le fait qu'on laisse la personne s'exprimer. Au contraire, c'est soutenir son expression. La souffrance des parents nous est souvent opposée quand on dit les parents doivent participer au projet, les parents doivent pouvoir exprimer leurs besoins. Il est souvent reproché à ces méthodes de mettre les parents trop comme acteurs ou co-thérapeutes et pas assez et de ne pas respecter les moments de souffrance. Il y a souvent une opposition maladie-handicap. Hein, si c'est handicap, il n'évolue pas alors qu'il vaudrait mieux que ce soit une maladie. Non, en fait, on peut avoir une maladie qui génère plus ou moins un handicap et des fois plus de handicap si on est bien pris en charge. Et l'opposition médico-social-sanitaire reste un vrai problème pour nous dans l'autisme parce qu'il y a tout le temps une articulation entre les deux. Et puis maintenant, le troisième partenaire très important, l'éducation nationale, qui va peut-être finalement réussir à réunir les deux autres. Alors les questions des parents sont un peu éloignées de celles-ci. Ils s'en moquent un peu de la place du soin, la place du sujet. Eux, c'est leur enfant, donc ils n'ont jamais pensé que leur enfant était autiste. C'est un enfant avec un autisme, avec une difficulté de développement, mais ils ne réduisent jamais leur enfant à l'autisme. Leur question, c'est est-ce qu'il va aller à l'école ? Je veux qu'il aille à l'école, et ils ont raison. La gestion des crises et des fois de pouvoir souffler, parce que c'est pas, y a une souffrance, mais c'est pas une souffrance que psychique, quoi. C'est au quotidien. Elle peut être très simplement soulagée en trouvant quelqu'un qui vient garder l'enfant le week-end, quelqu'un qui réponde à des besoins simples de sortie, de souffler, et quelqu'un à qui ils peuvent le confier. Est-ce qu'il va être autonome ? Est-ce qu'il est autonome ? Comment le rendre autonome ? Donc, c'est plus se brosser les dents que de penser à des choses très compliquées sur... Bon, je n'ai pas d'exemple. L'apprentissage de la vie sociale, comprendre l'autisme. Ils ont un grand besoin et un désir de comprendre l'autisme pour comprendre le fonctionnement de leur enfant. Ils comprennent pas mal leur enfant, souvent, mais il y a des choses qui leur échappent parce qu'ils n'ont pas forcément une bonne connaissance de l'autisme. Et bien sûr, trouver des aides à la communication, parce que c'est ça qui va soutenir beaucoup la relation avec leur enfant. La compensation des besoins, et leur gros problème actuellement, c'est la survie administrative. C'est très compliqué. Alors, on a des premiers signes à 18 mois, et on fait encore souvent trop le diagnostic après 5 ans, et des interventions qui ne sont pas toujours adaptées, beaucoup trop floues, pas très ciblées sur la problématique autistique, des traitements médicamenteux très mal évalués, avec souvent des enfants, plus ils grandissent, plus on leur en rajoute. Ça va avoir des conséquences pour le développement de la famille et un enfant qui sera mal préparé pour l'école et donc pour la vie sociale. Hein, ça reste quand même le lieu où on se socialise, l'école, avec un retour massif au médico-social, peut-être trop, alors que l'enfant pourrait rester à l'école, des hospitalisations et bien sûr une saturation des services, puisque les enfants ne sont pas là où il faudrait, je dirais. Donc... Alors, il y a beaucoup de nœuds. On a des premiers signes qui sont encore mal repérés, mais on commence à avoir des outils pour bien mettre en place ce dépistage précoce. Le parcours reste très complexe. Hein. Les enfants passent un peu partout, voient 5-6 professionnels qui ont tous pensé à l'autisme et personne n'a osé le dire. On a des difficultés d'adressage, des listes d'attente à chaque étape. Ceux qui connaissent l'autisme n'ont pas forcément les moyens de faire les évaluations et vice-versa. Ceux qui font les évaluations ne vont pas faire les interventions, etc. Donc c'est un vrai, y a un manque de coordination et un problème d'accès aux soins, et c'est des nœuds, des gros nœuds. Et voilà, alors nous, on a des pistes de travail, c'est le projet KitKat, parce qu'une petite pause KitKat quand on est dans les nœuds, ça fait du bien. Non, c'est un kit de dépistage et une conduite à tenir pour le diagnostic précoce, des petites choses très simples. En piste de travail, il y a les groupes d'aide aux aidants aussi qu'on met en place de plus en plus pour aider les familles. Alors, quand ça arrivera en France, ça va faire un peu mal parce que c'est tout un guide sur comment décider de la médication. Est-ce que mon enfant doit avoir une médication pour des troubles du comportement ? Il y a des questions extrêmement précises, très bien faites. Et si un jour un parent vient avec ce type de document pour vous dire est-ce que vraiment mon enfant a besoin d'un traitement et qu'il va falloir répondre à tout ça, ça va être très promoteur de bonnes pratiques, je dirais. Mais c'est pas rentré dans les mœurs. Et puis là, c'est ce monsieur. Bon, ça, c'était plus un clin d'œil. Pour les adultes, parce qu'il faut vraiment finir, je voudrais vraiment finir sur les adultes. C'est la grosse complexité. Ça va être les adultes sont très nombreux et on n'a pas prévu grand-chose pour eux. Alors, ce monsieur, là, Mel Karmazin, qui est une espèce de gars qui est richissime et qui a été chef d'entreprise, qui a un petit enfant autiste, ils ont décidé avec Rutgers Université, c'est une université aux États-Unis, d'offrir au sein de l'université des logements, du travail pour des personnes avec autisme, et les étudiants en psycho devront aller accompagner ces personnes au sein de l'université. Et les logements aussi seront mélangés. Il y aura plusieurs bâtiments, mais ils vont aussi avoir des, ils vont être colocs des étudiants. C'est vraiment les intégrer dans la vie de l'université. Et ils vont lever 35 millions pour 60 places à peu près. Voilà, des idées comme ça. Je vous remercie. Oh, désolé, on n'a pas le temps pour la vidéo.
Alors, déjà, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos attentes et à la demande ou à la commande. Moi, juste sous forme de réaction, je pense qu'effectivement, s'il s'agit ensuite de construire ou de faire évoluer nos processus et nos organisations, au-delà même de ces questions de connaissances et de leur diffusion qui sont assez redoutables, on voit bien qu'on est face à un sujet qui est extrêmement intéressant de par sa complexité même à approprier dans nos établissements. Je pense que dans bien des cas, on reste sur une partie du sujet, parfois sur sa périphérie ou en surface. Le deuxième aspect, c'est vrai qu'on le voit monter, me semble-t-il, c'est la question des adultes, et notamment quand on commence à travailler avec le médico-social, avec les établissements médico-sociaux, quelle qu'en soit la forme, on est confronté, et ils nous l'annoncent, à un grand nombre d'adultes, même non diagnostiqués, hein, vous l'avez souligné. Sur la question des enfants, il me semble aussi que, alors qu'on ne s'en aperçoit pas parce qu'on est souvent dans une vision de décalage avec l'éducation nationale, que manifestement l'éducation nationale se met à faire un certain nombre de choses par rapport au milieu ordinaire, même si, comme vous l'avez souligné, les prises en charge se font encore essentiellement en institution pour beaucoup d'entre eux, et on est aussi confronté à l'institution. Alors moi, sans aller plus loin, j'avais juste une question, parce que c'est une interrogation qui est assez fréquente. On fait partie des établissements qui ont investi dans le diagnostic, vous avez commencé par le diagnostic, etc., le diagnostic précoce en particulier, qui n'est pas forcément d'ailleurs généralisé. Non. Même dans les établissements qui mettent en œuvre des dispositifs et des structures de ce type, ça ne répond pas forcément à la totalité de la problématique. Et puis... Moi, je pense qu'on est confronté à une psychiatrie infanto-juvénile, et notamment les hôpitaux de jour, dont le fonds de commerce, en quelque sorte, a été, et beaucoup, si ce n'est de plus en plus, une file active d'enfants atteints des troubles du spectre autistique. Et quand on voit tout ce que vous décrivez, et quand on voit quand même le décalage auquel on est confronté dans nos établissements, je me pose toujours la question de façon un peu triviale, est-ce qu'on risque pas, à un moment donné, de sortir des écrans par rapport à d'autres acteurs ? Alors, pas forcément le médico-social, parce que je ne sens pas beaucoup plus avancé que nous, mais notamment des prises en main ou en charge beaucoup plus directement par les parents. L'éducation nationale, peut-être, qui se rendra capable, et de plus en plus, je sais pas, c'est une interrogation, de mettre en place des dispositifs différentiels par rapport aux nôtres, si notre pays aborde enfin, de façon plus systématique, le milieu de vie ordinaire, en quelque sorte. Sans même parler de nos établissements, que je ne vois pas, même quand on fait du job coaching, employer beaucoup de patients autistes adultes, et en particulier d'Asperger, par exemple, à la différence d'autres milieux de travail. Donc, mais la question de base, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la psychiatrie infantile, on peut faire un constat statique, de dire, bon, les choses sont ainsi, mais est-ce que, au regard du reste du spectre, et notamment des intervenants, il n'y a pas un risque un jour de décalage tel qu'on finisse... par constater, si ce n'est pas déjà commencé, que nos hôpitaux de jour, par exemple, ont moins d'utilité et que leur activité, contrairement à ce qu'on nous raconte toujours, a plutôt tendance à décliner.
Alors, il y a deux choses. Il y a une diapo que je n'ai pas présentée sur le diagnostic. C'est vrai que sur l'accès au diagnostic, c'est normalement une réponse graduée. C'est-à-dire que les centres d'évaluation, les unités d'évaluation, sont censées recevoir que les cas complexes et être majoritairement en appui des centres, je dirais, de proximité, c'est-à-dire les CMP, les CMPP, les CAMS, etc., les services de pédiatrie. On est en train de faire cette bascule sur Rhône-Alpes, des centres d'évaluation qui viennent en appui des autres centres, parce qu'il y a ce problème de prévalence. Hein. Les centres de diagnostic font en gros 3 000 à 5 000 diagnostics par an. Je ne sais plus où on en est, enfin, disons 4 000 par an. Il y a de toute façon 80 000 enfants. Hein, et il y en aurait 5 000 nouveaux par an qui arrivent, entre guillemets, qu'il faudrait dépister actuellement. Donc, si vous voulez, ce n'est pas les centres de diagnostic qui vont répondre à la demande de diagnostic ni des enfants, ni des adultes, parce que même s'il y a quelques centres de diagnostic adultes, on est très, très loin de pouvoir répondre à ce besoin de diagnostic et surtout d'évaluation fonctionnelle. Hein. Donc, il faut vraiment que ça rentre dans la pratique courante. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui arrive en CMP, eh bien, on se pose la question, on lui fait les quelques tests, parce qu'on a des équipes pluridisciplinaires en CMP, en hôpital de jour, hein, Alors, les orthophonistes, c'est plus compliqué, mais elles font de bons bilans en libéral. Les orthophonistes sont actuellement les mieux formés. Donc, effectivement, sur la question du diagnostic, c'est vraiment une réorganisation de la filière qu'il faut penser, et avec l'appui des centres d'évaluation. Et sur les soins, oui, il y a un décalage. Oui, il y a déjà des familles qui quittent les CMP, qui ne veulent plus en entendre parler, ou qui quittent les hôpitaux de jour, et ils essayent de trouver en libéral des systèmes de prise en charge. On a un gros problème dans ce cas-là, c'est la question de la coordination, du suivi médical. Et là, ils sont souvent un peu seuls. Alors, ils veulent bien être acteurs du développement de leur enfant, mais ils s'épuisent aussi sur la durée. Et ils ont besoin quand même d'aide du CMP, au moins comme coordonnateur des soins. Après, il y a des hôpitaux de jour qui évoluent, qui commencent à introduire un peu d'évaluation, qui commencent à introduire des pratiques de TEACH. Il y a des hôpitaux de jour qui se sont construits, je pense à Saint-Jean-de-Dieu, autour des méthodes recommandées, c'est-à-dire des prises en charge précoces, des prises en charge en éducation structurée, un petit peu ce que je vous ai montré dans les diapos. Donc, c'est faisable de faire évoluer un hôpital de jour vers des bonnes pratiques, c'est tout à fait possible, mais il y a encore des résistances qui sont à la fois idéologiques et puis de méconnaissance, tout simplement, de ces pratiques-là. Ça évolue petit à petit. Mais on a déjà, dans certaines zones, des familles qui ne veulent plus aller sur les CMP. Hein. Donc, selon les MDPH, s'il y a une MDPH qui veut bien compenser le libéral, je dirais qu'ils s'en sortent comme ça, mais ça a ses limites, quoi.
Alors, on va passer à d'autres questions.
Juste le temps que la question arrive, c'est vraiment... Là, ça crée des... au niveau social, sur l'accès à ces soins en libéral, il y a une vraie fracture sociale. Hein. C'est quand même les personnes, les familles les plus aisées ou qui ont le niveau de connaissance qui leur permettent d'accéder à ce type de prise en charge. Oui.
Oui, François Courteau, Centre hospitalier de Roufac. Vous faites une présentation de l'autisme qui est très claire. Et du coup, ça m'amène à vous poser une question. Vous n'avez sans doute pas la réponse, mais vous avez votre réponse. Comment ça se fait qu'on ne fait pas avec le plan autisme ce qu'on a fait avec le plan cancer ? C'est-à-dire que dans le cadre du plan cancer, il y a des obligations. On doit travailler d'une certaine façon et pas d'une autre. Et si on veut avoir l'autorisation de traiter le cancer, on doit utiliser ces méthodes de soins et pas d'autres. Dans le cadre du plan autisme, on a l'impression que ce que vous dites est reconnu scientifiquement et ne suscite pas de débat. Et malgré tout, chacun fait un peu comme il veut. Alors, il y a des pressions qui se font de la part des familles. Il y a des professionnels qui sont engagés et qui s'orientent dans ces bonnes pratiques. Et à côté de ça, on continue à avoir des techniques de prise en charge qui sont des techniques qui ne sont pas conformes à ça et qui créent des déséquilibres. Et vous faites le constat vous-même, on n'avance pas. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas avec le plan autisme ce qu'on a fait avec le plan cancer, c'est-à-dire rendre les choses obligatoires ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Je ne peux pas répondre, mais j'ai un peu des idées sur la question, parce que je m'étais posé un peu naïvement la question, en me disant, ben voilà, il y a des recommandations, on applique et on y va. Effectivement, en voyant les acteurs terrain, je pense que si ce n'est pas devenu une obligation, c'est pour pas qu'il y ait la révolution. Quand les recommandations sont sorties, par exemple, en Rhône-Alpes, on a quand même eu les trois présidents de CME qui ont fait une lettre pour expliquer à quel point ces recommandations sont fortement douteuses. Donc, si vous voulez, quand on arrive derrière, nous, les CRA, pour expliquer, appliquons les recommandations et que les trois présidents de CME les remettre complètement en question, c'est vraiment compliqué. Donc il y a une résistance de fond. Il faut voir que la pédopsie n'a pas rendu de compte pendant des années. Enfin, ce que faisaient les CMP, vous venez juste d'introduire un peu déjà, un peu d'écrire un peu ce que vous faites en termes d'actes. Mais personne n'a jamais rendu de compte. Donc si vous voulez, on passe quand même d'une culture où chacun fait ce qu'il veut comme il veut dans son coin et où les diagnostics variaient. Vous alliez au nord d'un département, au sud, sous la même dénomination, chacun mettait ce qu'il voulait, à l'idée qu'il y a des recommandations qui viennent d'un monde anglo-saxon, pratiquement, parce que toute la littérature vient de là. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème culturel, vraiment, et qui ne concerne pas que la pédopsie, qui concerne le développement de l'enfant en général. Et puis, on a aussi des filières très clivées. Le fait d'avoir vraiment séparé tous les aspects neuro et neurodéveloppement de l'enfant, qui étaient du domaine du somatique, de la pédopsie, Ça fait que la pédopsie, je dirais, a pris du retard dans certaines pratiques. Mais finalement, quand on regarde l'état des filières déficience intellectuelle, ce n'est pas simple non plus. Donc je pense qu'il y a un problème culturel, il y a un problème de formation. Il y a, à mon avis, au niveau de la formation universitaire, c'est impressionnant, le retard, le décalage entre les programmes, par exemple, l'enseignement que j'ai eu. Et quand je suis partie aux États-Unis, c'était un autre monde. J'ai dû réapprendre vraiment ce qu'était l'autisme. Alors que je n'avais pas eu une mauvaise formation, hein, Mais il y a quelque chose de l'evidence-based, de la médecine de preuve ou de l'évaluation qui n'était pas rentrée dans les programmes. Et ça a beaucoup de mal à faire sa place. Donc déjà au niveau des médecins, mais même après au niveau des instituts de formation infirmiers, des IRTS. Donc tant qu'on n'aura pas bougé au niveau de la formation initiale, on va avoir beaucoup de mal, même en formation continue, à faire bouger les lignes quand même. Après, pourquoi ce n'est pas obligatoire? Je pense que tout simplement pour éviter une révolution ou une grève pendant 6 mois. Enfin, je pense que l'acceptabilité, elle n'est pas encore là, quoi. Mais c'est les familles qui font beaucoup bouger les choses. Et finalement, au fur et à mesure, on va arriver à ce que ça s'impose.
Bonjour, Joël Oberlin, psychiatre au centre hospitalier de Rouffach, psychiatre adulte. Je voulais vous poser une question concernant, disons, d'autres modalités d'approche et de prise en charge, notamment les exemples de Romandie, donc Autisme Genève, par exemple, propose des prises en charge pendant 2 ans à la demi-journée pour un enfant, ce qui lui permet d'arriver, en principe, à entrer au premier niveau scolaire, à peu près adapté comme tous les autres enfants. Que pensez-vous de ceci? Y a-t-il un espoir d'aboutir à ce genre de choses en France?
Alors, une demi-journée par semaine, vous voulez dire?
Par jour.
Voilà. Alors, actuellement, il y a plusieurs unités qu'on dit de prise en charge précoce selon le modèle Denver ou Early Start Denver Model. Là, je ne vous ai pas présenté parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, effectivement, c'est un modèle qui permet à des enfants dès l'âge de 18 mois d'avoir... Alors, dans le modèle initial, c'est 20 heures par semaine, mais actuellement, à Lyon, à Saint-Jean-de-Dieu et au Vinatier, ils proposent un modèle à 12 heures par semaine. Alors, à Genève, chez Hilary Wood, je ne sais plus s'ils sont à 12 heures par semaine à peu près. Effectivement, c'est prometteur. C'est en cours d'évaluation. Là, les études qui ont été faites aux États-Unis sont prometteuses. Mais il faut que ce soit répliqué. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Dans le sens où ça correspond à... Ça marche bien sur certains enfants. Il va falloir bien définir lesquels. Et c'est censé, effectivement, permettre à l'enfant de rentrer dans une scolarisation ordinaire, d'avoir les précurseurs sociaux qui lui permettent d'accéder aux apprentissages ensuite. Mais ça a aussi ses limites sur certains enfants et probablement ceux qui ont une déficience importante.
Merci.
Mais c'est un peu l'avenir. Hein. C'est pour ça qu'on insiste sur le diagnostic précoce. C'est parce que maintenant, on a des modèles de prise en charge précoce et intensive. Donc, juste un petit appel. Dans toutes vos régions, vous avez des centres de ressources autisme. Ils sont plus ou moins rattachés à vos établissements, mais ils peuvent vraiment vous aider sur la formation de vos personnels. Donc, il faut vraiment les solliciter, faire des partenariats avec eux. Pour qu'ils aident vos personnels à évoluer.